Merci d'écouter RFI, 6h30 à Libreville, 5h30 en temps universel. Le journal, c'est avec vous, Pierre Boudiaz, bonjour.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, la RDC, Joseph Kabila prépare-t-il son retour ?
L'ancien président n'a pas pris sa retraite politique, a assuré hier un de ses proches, le dirigeant du FCC, prêt à répondre à l'appel du peuple, selon Raymond Tshibanda. Les associations féministes tchadiennes appellent les autorités à agir face au fléau du viol. Un sit-in était organisé hier à N'Djamena, à proximité du festival Dari, rassemblement sur les lieux du viol collectif d'une jeune fille dans la nuit du 1er janvier. La rougeole gagne du terrain au Maroc. Près de 20 000 cas ont été recensés depuis 2023, conséquence notamment d'une sous-vaccination aggravée par la période de Covid. Et puis l'inquiétude des familles de malades au Gabon. Depuis le début de l'année, les pharmaciens n'avancent plus de médicaments aux assurés de la caisse publique d'assurance maladie. Une façon de protester contre la dette souscrite auprès des professionnels par la CNAMGS. Une déclaration qui fait parler en République démocratique du Congo, celle du coordonnateur de la cellule de crise du FCC, la plateforme politique de Joseph Kabila. À l'occasion de la journée des martyrs hier, Raymond Tshibanda a assuré que l'ancien président de la République n'a jamais pris sa retraite politique, mais qu'il était en congé sabbatique, prêt à répondre à l'appel du peuple pour relever les défis du pays. L'occasion également de dénoncer la situation actuelle qu'il qualifie de crise multiforme sans précédent, un plan et une résistance active contre ce qu'il décrit comme une dictature. Cette déclaration suscite de vifs débats à Kinshasa où elle relance les spéculations sur l'avenir politique de Joseph Kabila et son possible retour sur le devant de la scène. RFI Kinshasa, Patient Ligodi.
Que ceux qui prenaient le taiseux pour un muet et donnent les lions au repos pour mort, se détrompent, a déclaré Raymond Tshibanda, laissant peu de place au doute. Les récentes manœuvres politiques du regroupement FCC semblent refléter une stratégie mûrement réfléchie. Des proches de Joseph Kabila confirment qu'il reste un acteur clé sur le plan politique. Ceux qu'ils pensaient tourner vers l'élevage ou l'agriculture doivent revoir leur jugement, confie une source, ajoutant que ses ambitions n'ont jamais été reléguées au second plan. En décembre dernier, à Addis Abeba, Joseph Kabila a rencontré Moïse Katumbi pour renouveler leur opposition commune aux réformes constitutionnelles initiées par le président Félix Tshisekedi. Au sein du PPRD, le principal parti de la plateforme politique FCC, les efforts de restructuration se poursuivent. Bien que le congrès prévu en 2024 ait été ajourné, un cadre du parti insiste « Nous n'avons pas mis la clé sous le paillasson ». La réorganisation du parti et du FCC reste une priorité pour 2025. Il est également question de la structuration plus formelle du FCC. L'ex-première dame, Olive Lembe Kabila, avait elle aussi marqué les esprits en novembre dernier. Elle déclarait que son époux, actuellement dans un pays d'Afrique australe, n'était pas en exil mais poursuivait des études à l'étranger avec l'objectif de revenir mieux aguerri. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et dans ce contexte, les rebelles du M23 ont annoncé hier la prise de la ville de Massissi Centre, située à 80 km à l'ouest de Goma, au nord Kivu. Cette localité, considérée comme stratégique, elle a été perdue après de lourds combats entre la milice soutenue par le Rwanda et les FARDC, appuyés par leurs alliés Wazalendo. Une défaite qui a entraîné d'importants mouvements de population en direction de la localité de Louchébéré. Joint par RFI, Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile, dit redouter une catastrophe humanitaire. Au Tchad, le viol collectif d'une mineure de 17 ans continue de provoquer l'indignation dans la nuit du 1er janvier. Après avoir passé la soirée au festival Dari, la jeune femme a été agressée par plusieurs hommes. Sur son chemin retour, ce viol collectif fait polémique dans le pays et les associations féministes continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux. Hier, la Ligue tchadienne des droits des femmes a choisi de faire un sit-in à quelques mètres du festival Dari. On écoute l'organisatrice Ramenda Gonga de l'Union secrétaire générale adjointe de la Ligue tchadienne des droits des femmes.
Nous sommes sur les lieux où la jeune fille de 17 ans a été violée après qu'elle soit sortie du festival Dari.
C'est sur un rond-point en face du Palais du 15, là où se tient le festival Dari, que les militantes de la Ligue tchadienne des droits des femmes, la LTDF, se sont donné rendez-vous. Un lieu symbolique pour mieux se faire entendre, explique Mélodie Romance, une militante de la LTDF.
Nous avons l'habitude de mener notre lutte sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas si le gouvernement a pris en compte ou pas. Mais là, ça en est de trop. Et aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés pour nous rencontrer ici et puis continuer cette lutte sur le terrain.
Mélodie Trésor est responsable des affaires juridiques de la LTDF.
Nous sommes dans un pays de droit et la sécurité doit faire son travail. Le ministère de la Sécurité doit faire son travail. Mais pourquoi dire que la femme n'a pas le droit de venir se promener à une heure pareille? Donc il faudrait que les autorités en charge de la sécurité prennent leurs dispositions. Il faudrait aussi que le ministère de la Femme aussi
fasse un travail pour pouvoir protéger ces femmes dans ce sens.
Selon un communiqué de la direction de la promotion et de la protection des droits des femmes, la victime bénéficie d'une prise en charge médicale et psychosociale. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
La sécurité au cœur d'une prise de parole du président du Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, recevait hier les vœux de nouvel an des forces vives de la nation. En réponse, le chef de l'État a déploré la montée, je cite, des comportements déviants, une allusion au grand banditisme, mais aussi au développement des gangs dans les grandes villes du pays. Pour lui, la lutte contre ces comportements concerne tous les parents, notamment avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial.
La grande salle du palais des congrès était pleine pour les vœux du chef de l'État congolais. Répondant aux vœux adressés par le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, le président Denis Sassou Nguesso s'est appesanti sur les questions de sécurité dans le pays. Il a fustigé des comportements déviants et rétrogrades.
Les comportements déviants de certains jeunes au sein de la cité, notamment dans les périphéries urbaines. Cette situation nous interpelle tous. En tant que parents, un système éducatif ne peut par lui-même façonner la superstructure d'un pays.
Ces derniers mois, la recrudescence des gangs dans les grandes villes, notamment dans la capitale, a contribué à la hausse de la délinquance en tout genre. Agressions, vols, meurtres. Réagissant aux déclarations du chef de l'État, Trésor Ndila, défenseur des droits de l'homme, estime qu'il faut prendre le problème à la racine.
La meilleure approche consiste à s'attaquer aux causes du problème. Ces jeunes agressent et rançonnent les gens. Il faut bien une réponse face à ces phénomènes. Mais la réponse ne doit pas se faire au détriment des droits humains.
Pour Trésor Ndila, le problème s'explique entre autres par le chômage endémique de la jeunesse. Et ce, alors que le Congo-Brazzaville traverse depuis plusieurs mois une profonde crise économique. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
En Côte d'Ivoire, les autorités interdisent l'accès du port d'Abidjan à un navire rempli de nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Le bâtiment, qui pourrait être victime d'une avarie, transporterait une cargaison représentant 7 fois le volume de celui qui avait dévasté la capitale libanaise. Une réunion d'urgence est prévue ce lundi. Plus de précisions à suivre dans le journal de 7h30. Il est 6h37 à Rabat. Le Maroc fait face actuellement à une épidémie de rougeole depuis octobre 2023. Près de 20 000 cas ont été recensés, un peu plus de 100 décès, dont la moitié concerne des enfants de moins de 12 ans. Des chiffres divulgués cette semaine par le ministre de la Santé, dont le département se mobilise pour tenter de contenir l'urgence sanitaire. Mathias Rénal.
L'épidémie de rougeole continue de gagner du terrain. C'est désormais le nord du royaume qui est touché. La maladie se répand dans une population qui n'est plus assez immunisée. Le docteur Taïb Hamdi est le vice-président de la Fédération nationale de santé au Maroc.
On a un problème de sous-vaccination, donc on n'atteint plus les objectifs. Le Maroc était champion de la vaccination des enfants, on atteignait toujours les 95-96%.
En cause, selon le ministre de la Santé, Amin Tahraoui, l'hésitation des familles à faire vacciner les enfants, mais aussi la pandémie de Covid-19 qui a perturbé le fonctionnement normal des systèmes sanitaires.
Il faudrait réactiver d'une manière systématique la surveillance épidémiologique. C'est le seul moyen pour pouvoir cerner les cas de rougeole et les foyers de rougeole avant leur propagation.
Le ministère de la Santé a ainsi lancé un plan de riposte contre la rougeole pour détecter rapidement les contaminations. Une campagne nationale de rattrapage vaccinal pour les mineurs est également en cours.
Le vaccin de la rougeole, c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est très efficace, c'est un vaccin, une vaccination à deux doses, ça protège pendant toute une vie.
Les professionnels de santé appellent à une mobilisation générale pour stopper la propagation de la maladie. Mathias Rénal, Casablanca, RFI.
Les conditions d'entrée en Mauritanie changent à partir de ce dimanche. Les ressortissants étrangers soumis à l'obligation d'avoir un visa doivent désormais impérativement obtenir un visa électronique avant d'embarquer. Les demandes de visa électronique se font exclusivement sur le site internet de l'ANRPTS, l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Les hommes d'église camerounais continuent d'interpeller les autorités. Le 25 décembre dernier, sur RFI, l'archevêque de Douala estimait qu'une candidature de Paul Biya à un nouveau mandat n'était, je cite, pas réaliste en raison de son âge avancé, 92 ans cette année. Le 29 décembre, c'était au tour de l'évêque de Ngaoudéré de dénoncer l'absence d'écoute de la part des autorités à l'égard des doléances des citoyens. Monseigneur Emmanuel Abo assure porter un message plus social que politique, celui des habitants de son diocèse qui ne s'en sortent plus. Écoutez-le.
Il y a la population camerounaise qui ne demande qu'à avoir le minimum pour survivre. Mais lorsque cette population demande à avoir ce minimum, on lui empêche d'exprimer, n'est-ce pas, sa souffrance. L'État est un rouleau compresseur et nous trouvons que cela n'est pas normal. Si les autorités d'en haut nous invitent à tenir, n'est-ce pas, des discours contre la haine, ils devraient être les premiers à montrer le bon exemple d'un discours qui invite à la non-violence. Et il faudrait qu'on nous démontre en cette année qu'on est capable, n'est-ce pas, d'apporter un changement dans notre pays, le Cameroun. Je suis vraiment très proche de ma population. Quand j'écoute quelles doléances ils viennent me présenter, la population camerounaise souffre, ça il faut le dire clairement. Et elle n'a pas de réponse. Je demande à toute autorité confondue d'être proche de son peuple et de donner une réponse à ce peuple-là. On n'en demande pas plus.
Monseigneur Emmanuel Abo, il était au micro d'Amélie Tulay. Au Gabon, le désarroi des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Depuis le 2 janvier dernier, les pharmaciens ne leur avancent plus de médicaments en raison de dettes trop importantes de la CNAMGS. Alors que 90% des Gabonais sont assurés auprès de cette Caisse d'assurance médicale universelle, la colère monte dans le pays. L'intervention du gouvernement est réclamée. Reportage Yves-Laurent Goma.
Roger a un parent dans un bloc opératoire. Il a fait le tour des pharmacies, mais aucune n'a accepté de lui délivrer les médicaments grâce à son assurance maladie.
C'est une facture de 170 000 francs que je tiens en main. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays sans la CNAMGS? Qu'est-ce que nous allons devenir?
Le refus des pharmaciens de délivrer les médicaments plonge les populations à faible revenu dans le désarroi.
C'est dramatique pour nous les pauvres. Je n'ai même pas de mots.
Il faut que le président m'entende s'il entend ce que je dis. Qu'il faut qu'il remédie à cette situation le plus vite possible, au plus tard lundi.
En cause, une dette trop lourde accumulée par la CNAMGS vis-à-vis des pharmacies. Dans un communiqué, la Caisse a annoncé que cette dette est en cours de liquidation depuis le 31 décembre. La ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanong Anato, a voulu rassurer la population.
Le gouvernement met tout en œuvre et est engagé pour sortir de cette crise et revenir à un redressement de cette entité qui est aussi notre image.
Éclaboussée par un scandale de mauvaise gestion, toute l'équipe dirigeante de la CNAMGS a été limogée en novembre. De nouveaux responsables ont été nommés et installés ce samedi.
Yves-Laurent Goma depuis le Gabon. C'est la fin de ce journal. La suite d'RFI Matin tout de suite, c'est avec vous Gaëtan Plenet.
Et cette édition était signée Pierre Boudias, 6h43 à Paris. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 9h et à suivre la revue des hebdos avec Catherine Potet, des hebdos qui